Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Louis Capel est-il victime d'une malédiction, d'un destin calamiteux, ou simplement a-t-il fait des choix malheureux ? On peut se poser cette question. Sommes-nous tributaires d'un destin ou par nos décisions, nos actes, sommes-nous totalement responsables de notre vie ? Voilà une des raisons, pas la seule, pour lesquelles nous lisons avec un très grand intérêt ce roman édité chez Serge Safran intitulé Patagonie, roman dont je suis heureuse d'accueillir l'auteur Michel Tesser. Michel Tesser, bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors, nous nous sommes déjà rencontrés, mais nous étions dans des contrées moins rudes. Il me semble que nous étions plutôt vers l'Italie. Voilà, parce que vous avez déjà un passé d'écrivain, je dirais de créatrice, parce que quand je lis votre biographie, vous avez fait énormément de choses. Vous avez fait en particulier, non seulement dans le domaine des livres, mais dans le domaine des beaux-arts, surtout la peinture, donc, et le cinéma aussi. Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Bon, il y a Saveurs et senteurs de la Rome antique. Je crois que vous étiez venu à Radio Présence pour ce livre.
C'est possible, oui, effectivement. Oui, qui est une, là, c'est une promenade, ce n'est pas un roman. C'est une sorte de vagabondage, j'ai appelé ça.
Vagabondage,
des textes, oui, à travers la mémoire latine, des lieux, voilà. Voilà.
Et je vois que Venise vous a beaucoup inspiré, puisque vous avez peint, vous avez écrit des livres et vous avez fait des courts-métrages également, des documentaires.
Voilà, Venise est une ville qui m'a nourrie et qui continue de nourrir, hein, mon imaginaire. Voilà, j'y ai exposé. Là, je collabore aussi à Venise avec un centre de gravure et d'art contemporain qui réalise des expositions et surtout des livres, puisque ce sont des gens qui sont éditeurs également. Et là, justement, en temps, alors là que des dessinatrices, hein, je vais contribuer à un livre sur la reine de Saba. Voilà, avec.
D'accord.
Voilà, leurs principes, ce sont des.
Et est-ce que vous exposez parfois ?
À Venise, oui.
À Venise, et à Toulouse,
j'ai exposé.
Non.
À Toulouse, depuis pas mal. J'ai exposé il y a environ 3-4 ans. Voilà, et puis depuis, l'écriture m'a tellement prise, et puis ensuite, oui, la présentation des ouvrages ici et là, que. Mais.
Bon, oui, il faut du temps aussi,
voilà,
pour organiser une exposition.
Bien sûr, bien,
oui,
sûr.
En tout cas, des ouvrages, oui, il y a votre deuxième roman, La Teinte Torretta, ça a été l'objet d'une lecture musicale, je lis, hein, par le comédien Didier Sandre, qui est connu. Je n'ai pas dit que vous viviez à Toulouse, vous vivez et travaillez à Toulouse. Et donc, c'est pour ça que j'ai la chance de vous recevoir en période de confinement.
Voilà. Hein,
bon, voilà, c'est heureusement que vous pouvez nous rejoindre. En tout cas, nous allons parler donc de cet étrange personnage qui était un membre de votre famille. Vous avez fait une enquête, on va en parler de cette enquête. C'est un roman qui nous fait vivre sur deux temps et deux époques.
Alors, c'est un roman qui commence, il y a deux niveaux, celui de la narratrice et celui du personnage principal et des personnages qu'il va rencontrer. Donc, la narratrice vit dans l'époque contemporaine, hein, le roman commence en 2009, et le personnage de fiction... On verra après si c'est réellement un personnage de fiction. Le personnage de fiction, lui, vit, ou du moins son témoignage, commence en 1905. Puisque les lettres auxquelles j'ai pu avoir accès sont datées de 1905.
Voilà, donc, quand vous dites « j'ai pu avoir accès à ces lettres », vous dévoilez déjà qu'il y a deux personnages. Il y a la narratrice, c'est vous, et puis il y a cet homme dont on va, que l'on va suivre à travers ses pérégrinations. Parce que ce roman se construit vraiment autour d'énigmes.
Alors, énigme, effectivement, énigme de ces lettres trouvées, énigme personnelle, puisque en même temps que ces lettres, j'ai découvert l'existence de ce grand-oncle. Et en même temps que ces lettres sont remontées à la surface, certaines zones d'ombre de l'enfance, et vous savez combien l'enfance est formatrice de l'adulte.
Voilà, et beaucoup de non-dits, et petit à petit, vous arrivez à reconstituer une sorte de puzzle. Moi, j'aimerais bien, Michel Tesseur, que vous nous disiez d'ailleurs, à la page 13 de votre ouvrage, il s'agit de vous, dans le fond. Page 13.
Alors, effectivement, le livre commence par une recherche sur des lieux. En l'occurrence, c'est dans un cimetière. Et puis ensuite, je reviens chez moi et me voici maintenant allongée sur le lit étroit, dans la petite chambre au plafond bizarrement pentu. Je contemple l'horizon où viennent s'amarrer de gros nuages, ciel atlantique, fin de saison. Juste en dessous, la ligne fragmentée des immeubles qui bordent l'avenue. Plus bas, la longue façade grise des garages aux toits de tôle ondulée. Et, occultant la moitié de l'espace que dessine l'unique fenêtre, la masse compacte et sombre de l'énorme cyprès du jardin. Mes yeux s'attardent sur un reste d'azur. Je cherche le paysage ancien, celui d'avant, avant le cyprès, avant les garages, avant les platanes et les bâtiments, avant ce ciel, avant cet été finissant. Terrain vague, entrepôt, petit jardin de banlieue, la grande plaine herbeuse, balayée par le silence et le vent, l'étendue glauque des eaux primordiales, l'immensité de l'océan. Avant le premier homme, avant la nécessité d'un havre, avant la maison, avant le tableau. Alors c'est vrai que là, beaucoup de choses sont dites parce que...
Oui, beaucoup. Et puis vous parlez de ce tableau tout au cours...
Ce tableau, voilà. Donc voilà un mystère qui arrive. Et puis un petit peu le ton de ce qui va être cette quête à la poursuite sur les traces d'un homme évidemment mystérieux. Et puis cette quête également aux eaux primordiales, peut-être à ce paysage d'avant. Alors paysage d'avant la narratrice, peut-être, et aussi paysage d'avant... la civilisation, d'avant ce monde, ce monde d'où va partir mon personnage et ce monde qu'il va découvrir. Voilà, donc c'est la double
quête. Ce monde qu'il va découvrir, ce paysage-là était quasiment vierge, mais petit à petit, d'ailleurs on va le voir au cours de l'ouvrage, il a été envahi, enfin envahi c'est bien grand mot, mais occupé par des hommes qui viennent... Voilà. Chercher fortune, créer des choses, enfin on en parlera. Oui, donc là, c'est un... À un moment donné, dans cette partie vous dit l'homme, la silhouette légèrement voûtée de l'homme qui se tient au centre du rébus. Voilà, et donc c'est cet homme-là que nous allons suivre. Donc c'est une sorte d'enquête. Et ce rôle de tableau, pourquoi est-ce qu'effectivement vous avez eu entre les mains un tableau?
Alors, tout ça fait partie de ces mystères de l'enfance que je vais dévoiler petit à petit ou tenter de dévoiler au fil de ce roman. Ce tableau est un tableau que la narratrice a vu pendant toute son enfance, qui était accroché là, que de temps en temps on décrochait et qui disparaissait. Et c'est un tableau étrange, dont la narratrice ne parvenait pas à comprendre l'origine de l'étrangeté, pas plus que son origine tout court. Alors, son étrangeté, elle consistait dans le fait, c'était un paysage des années 1900, comme on en faisait, très très classique, assez banal, somme toute, sauf que ce tableau avait une espèce de lumière africaine, mais on ne savait pas trop, l'horizon était rougeoyant, on ne savait pas trop si c'était un début d'automne, l'hiver, voilà, c'était une curieuse lumière. Et puis surtout, c'est un tableau qui associait des palmiers, mais en pleine nature, hein, des palmiers très hauts et des arbres sans feuilles. Des arbres.
C'est étonnant, oui, effectivement.
Voilà, avec juste un petit reste de feuilles, roussies, donc un paysage automnal avec des palmiers. Donc, mystère, et petit à petit, j'ai découvert justement ce malaise que provoquait ce tableau. Hein. Je suis parvenue à le définir, et ensuite, tout le reste a suivi. Voilà, j'ai essayé de comprendre.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous faire un court résumé, on ne va pas tout dévoiler évidemment, mais un court résumé de l'aventure de Louis Capel. Qu'est-ce qui s'est passé en 1905?
Alors, en 1905, un certain Louis Capel, ce personnage, cette silhouette hein, au centre du rébus, ce Louis Capel écrit une lettre. Il est à Puigcerda, c'est-à-dire en Catalogne espagnole. Il a passé la montagne, il a passé les Pyrénées à pied, et on comprend qu'il va s'embarquer. Il va s'embarquer pour l'Amérique du Sud. Pourquoi ? Le mystère est entier, bien qu'il y ait des pistes. Le ton de la lettre est très dramatique. On sent qu'il y a une dette,
souffrance.
Une souffrance énorme, énorme, qui va le pousser, qui va pousser cet homme de famille paysanne, ce terrien hein, sûrement, qui va le pousser à partir. Il va effectivement faire la traversée, il va se retrouver à Buenos Aires, et là, l'aventure va commencer, qui va lui faire traverser cette Amérique du Sud jusqu'à son point extrême. Et là, il va trouver son destin en même temps.
Quand vous dites que l'aventure commence, mais voilà. La misère, une forme de misère également.
Voilà. Ce n'est pas une aventure au sens des grands aventuriers qui partent par volonté, hein, délibérés. Ils ont envie de découvrir des choses. D'ailleurs, je le dis dans une page du roman, je ne sais plus laquelle, au début. Louis Capel, lorsqu'il est encore, il va prendre le bateau, il va s'embarquer à Barcelone, et il dit, du moins je lui fais dire, dans ce monde-là, dans le monde de ces petites gens, quand on voyage, ce n'est pas par plaisir, c'est par nécessité.
Oui.
Voilà, c'est pour aller à un mariage, un enterrement, ou pour aller chercher plus loin de l'embauche. Voilà, donc le ton est déjà donné. Ce n'est pas un voyage d'agrément, ce n'est pas de l'aventure avec panache, c'est une aventure par nécessité.
Voilà. Alors, on va découvrir donc Louis. On découvre, on comprend que c'est un homme qui est courageux, qui est honnête, c'est pas un bavard, certainement pas. Moi, je dirais qu'il est un peu coincé, mais on verra. Mais en tout cas, il est triste. À un moment donné, d'ailleurs, dans l'ouvrage, quelqu'un est frappé par la mine triste qu'il a. On se dit qu'il n'a jamais réussi à dépasser les malheurs qui lui sont arrivés au départ, hein, que l'on découvre petit à petit. Il y a quelque chose d'intéressant que vous notez dans votre ouvrage, c'est que il y a Adrienne et Vincent. Adrienne, bon, on peut le dire, c'est son grand amour et elle lui a préféré Vincent. Et Vincent, il dit, ce sont des rêveurs, ces deux-là, comme son ami Angelo. Et Angelo, c'est le seul, finalement, ami, c'est un début d'amitié qui a tourné court, puisque le destin les a séparés, leurs aventures. Et il dit, ce sont des rêveurs, des engagés. Et il sent qu'il est différent quand même. Ce n'est pas un rêveur, c'est un manuel d'enfant.
C'est un manuel, et c'est quelqu'un, je pense, qui s'est interdit des choses, qui s'est interdit de rêver, qui s'est fermé, effectivement. C'est quelqu'un qui est très fermé, qui a un sens de l'honneur exacerbé, et qui a en même temps conscience, je pense, d'emblée de son échec. Il sait d'emblée que c'est, on dirait aujourd'hui, un loser, d'une certaine manière.
Oui.
Mais c'est un perdant magnifique aussi, parce qu'il il est très touchant, parce qu'il ne peut pas... C'est quelqu'un dont le grand malheur, je crois, c'est de ne pas oser parler, de ne pas passer le pas de la parole et d'un justement d'un lien plus facile, plus décontracté, si on peut dire, avec l'autre. Voilà, d'où son malheur avec son grand amour, avec ses amis, avec voilà, c'est quelqu'un qui ne peut pas franchir ce pas.
Oui. Voilà. Et alors ce départ, est-ce que c'est une fuite ou le désir d'une revanche, se prouver peut-être à lui-même, pas forcément aux autres, mais se prouver qu'il est quelqu'un. On a l'impression quand même qu'il se dévalorise.
Oui, c'est quelqu'un qui... Alors justement, quand j'ai découvert ce personnage, parce qu'il s'est imposé à moi, hein, comme beaucoup de personnages, ce qui m'a plu, c'est ce côté anti-héros, finalement, et ce personnage qui... C'est un personnage de tragédie, finalement. C'est un personnage qui, voilà, qui ne va pas être capable de passer un certain cap. Pourtant, il a un courage extraordinaire. Il relève le défi, mais finalement de façon stérile, puisque ça ne va pas ouvrir sur autre chose. Alors effectivement, il part par nécessité, parce que c'est le seul moyen, pense-t-il, de pouvoir rembourser cette fameuse dette, hein, qui est une dette à la fois matérielle et une dette d'honneur.
D'honneur.
Donc il y a effectivement, il y a à la fois un désir de revanche, dont il n'est pas tout à fait convaincu que ça va réussir.
Oui.
Voilà.
À Buenos Aires, quand il arrive, il va voir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et je pense que la narratrice, vous ne connaissez pas au départ Alberto. Et d'ailleurs, l'accueil de l'épouse d'Alberto est assez bizarre. Et on va être long à comprendre, vous allez être long, je pense, dans votre enquête, à réaliser qui est Alberto. C'est ça qui est intéressant.
Ça a été très très difficile, parce qu'effectivement, les lettres étaient signées d'un nom qui n'avait rien à voir avec le nom du personnage principal, hein, qui signe les autres lettres. Il est fait mention à ce personnage-là dans toutes ces lettres-là, elles lui sont adressées, mais qui étaient ces gens? Et donc, effectivement, le roman suit toutes mes découvertes successives et ces dévoilements successifs. Mmh. Et chaque fois, ces personnages qui sont vus d'abord d'un petit peu loin, puis ensuite de façon un peu plus proche, on se rapproche jusqu'à entrer finalement dans leur intimité.
Quel est le lien.
Et comprendre quel est le lien, et comprendre quel est là aussi le secret, toute cette part d'ombre qui a été... toutes ces pentes de vie qui ont été cachées, qui ont été enfouies. Voilà, donc c'est un roman de l'enquête et du dévoilement, progressif, oui, très progressif, oui. Et difficile.
Alors, en revanche, une relation, j'ai parlé il y a un bref instant d'Alfonso, cette rencontre-là n'est pas du tout occultée, c'est un Catalan, il se rencontre sur le bateau et cet homme lui parle, lui met la main sur l'épaule, c'est vraiment un contact humain.
Voilà. Voilà, ce personnage, Alfonso, qui est... alors, il a des amis catalans, hein, mais lui-même est génois, parce qu'il y avait beaucoup de typographes italiens qui sont, pour des raisons politiques, alors, hein, qui partaient en Argentine, qui revenaient ensuite, voilà. Et cet Alfonso, effectivement, est un personnage qui est tout le contraire de Louis Capel, de mon héros. Il est communicatif,
engagé,
déterminé, il a cette chaleur humaine, il n'a pas peur de toucher l'autre. Et vraiment, je pense que pour Louis Capel, c'est aussi la révélation d'un monde différent et d'un mode d'être, d'existence différent. Et je crois que c'est déterminant et sûrement cette manière d'être d'Alfonso va l'aider peut-être à passer certains caps et à... Justement, à franchir certains obstacles.
À aller de l'avant.
Voilà, aller de l'avant.
Parce que Buenos Aires, bon, ça a été la déception, donc il va aller vers le sud. Alors, Michel Tesser, je vais vous faire travailler encore, parce qu'il prend le train, à la page 69, carrément. Alors, il prend le train, et donc il va descendre vers le sud.
Alors, il va descendre vers le sud et en même temps, il va, dans ce train, il va être
confronté
à toute une humanité différente de tout ce qu'il a connu hein, jusqu'à présent, une humanité sauvage, on peut dire. Hein. Sauvage dans le sens que tous ces hommes qui partent tenter leur chance et gagner de l'argent, essayer de gagner de l'argent, sont souvent des miséreux et des gens, des hommes, et souvent violents, incultes. Voilà, donc il va être confronté à la rudesse du monde, finalement, à sa férocité. Alors voilà, donc il est avec tous ces gens-là, il est embarqué, il est dans le train. Il repense à tout ça, tandis que défile derrière la fenêtre le long ruban monochrome de la pampa. Trois quarts de ciel laiteux, un tiers de terre rase parcourue de troupeaux, si minuscules qu'on croirait voir des puces sur l'échine pelée d'un vieux chien. Entre eux, des points en perpétuel mouvement, les gardiens sur leurs chevaux. Le wagon où Louis a pris place est bondé. Les passagers se taisent, murés dans un même silence qu'alourdit la fumée grise du tabac. Assoupis sur leurs baluchons, ils traversent en somnolant l'ennui infini de la plaine, la tête ballottante au rythme des essieux. Dans un coin du compartiment, un type encore plus taciturne que les autres émerge parfois de sa torpeur. Il sort un harmonica de sa poche et se met à jouer. C'est comme lorsque souffle le pampero, une plainte qui vous arrache le cœur. Chacun y reconnaît ses peines et, plus encore, son désespoir et sa propre férocité. Cette voix de métal, il voudrait bien qu'elle se taise, mais personne n'a le courage de protester. Parfois, une querelle éclate, violente, aussi brutale qu'un coup de sang. Au moindre remue-ménage, le contrôleur apparaît. Les choses se calment aussitôt. Les matraques de la police, personne ne les a oubliées. Louis pense à Angelo et à tous les autres, à leur discours sur l'absurdité des frontières, la fin des patrons et des généraux. Il pense aussi à ce bagne dont on ne parle qu'à mi-voix, au Grand Sud, dans ce coin de vent et d'extrême solitude vers lequel roule ce train. Ce qui attend ces hommes, aucun d'eux ne le sait vraiment. Sinon, ce que leur a raconté le recruteur de la compagnie. Voyage payé, logement, bon salaire, ils sont là pour gagner vite et, si possible, beaucoup, quitte à s'y briser les reins. Tout ça parce qu'un jour, au Conventillo, la nouvelle est tombée. Un gars qui arrivait de Punta Arenas a parlé des mines, de cet or qu'on trouve là-bas comme s'il en pleuvait, et d'ajouter, c'est sûr, la Patagonie, c'est le bout du monde, ça ressemble à l'enfer. Le froid, le vent, la neige, toute l'année la glace et les manchots pour seule compagnie. Mais pour le reste, c'est l'Eldorado. Dans les têtes, la ruée a commencé. Les couteaux se sont affûtés dans les poches. Une lueur mauvaise s'est allumée dans les regards. Louis la connaît, cette flamme. Il sait combien elle dévore ceux qui n'ont pas su l'étouffer à temps. Il le revoit, ce brasier, lorsqu'il ferme les paupières. C'est lui qui l'a mené jusque-là.
Ah, de très belles pages. Merci pour ce style, Michel Tesser. Et puis cette vie, donc, l'on sent dans ce train, ils en veulent. Bon, ils sont rudes, ils sont brutaux, ils sont grossiers, mais ils veulent, c'est la vie qu'ils attendent de vivre enfin, alors que beaucoup vont être exploités. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi ce titre de Mercedes Sosa ? Je n'ai pas d'accent. Gracias a la vida.
Oui, ce titre, cette chanson, hein, c'est, qui est un très très beau poème, à la fois doux et amer, de Violeta Parra, chilienne, donc, dont le père a eu un destin tragique, hein, du temps des colonels. Voilà, cette chanson, ce poème qui est chanté par Mercedes Sosa, a quelque chose de déchirant, qui est tout à fait de déchirant, d'âpre, tout à fait en accord avec ce que va vivre Louis Capel. Et puis, il se trouve que la chanteuse est métisse, elle est argentine, mais métissée d'Indien, elle est pratiquement indienne. Et je trouve que c'est à travers sa voix, il y a cette présence indienne qui va être importante aussi, très importante dans le roman, puisque c'est le monde d'avant, le monde d'avant l'arrivée des Européens et le monde de la grande forêt aussi.
Nous l'écoutons.
Violeta Parra era chilena. vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con el las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del mal. Cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Michel Tesser, venu nous parler de son nouveau roman intitulé Patagonie, édité chez Serge Safran. Roman donc qui nous transporte là pour le coup. Nous sommes partis de la France, nous sommes passés par Barcelone, brièvement, Buenos Aires, et là, voilà que le personnage principal de cet ouvrage, Louis Capel, a pris le train donc pour la Patagonie. Alors, c'est vrai que l'Argentine a connu un énorme essor à cette époque-là, au début du siècle, la Patagonie aussi. D'abord, il y a eu la fin des guerres indiennes, alors je me suis renseignée, parce qu'il y a eu des campagnes qui ont éradiqué contre les populations mapuches, Rankel, Vichy, etc., qui ont été vraiment... certaines ont été exterminées. Hein. Oui. Et du coup, ça a permis la conquête de nouveaux territoires, de vastes territoires agricoles en général. Les conquérants choisissaient les meilleurs territoires. Alors, il y a eu aussi... justement, je voulais rattacher ça, parce que chaque fois, d'une manière vraiment très intéressante, très subtile, vous introduisez quelque chose qui a un rapport avec cette Patagonie, avec cette Argentine qui démarre, là, on peut dire. Parce que apparaît un Indien dans l'histoire de Louis Capel, un seul. Vous pouvez en dire un mot ?
Oui, alors, lorsque Louis Capel part vers la Patagonie, à un moment donné, il travaille dans des mines, hein, puisque faisait allusion à l'agriculture. Alors, il y a l'agriculture, l'élevage les mines, qui sont vraiment très importantes. Et donc, il a une première rencontre avec plus exactement le racisme qu'il y a à l'égard de ces Indiens. Hein. Je ne raconte pas ce qui se passe, mais il y a déjà, on sent la brutalité de ces nouveaux arrivants vis-à-vis des Indiens, de ceux qui restent vers la Patagonie. Mais surtout, Louis Capel, lorsqu'il reviendra, il retournera de Patagonie, qu'il va s'installer sur le fleuve, hein, sur le Rio Paraná, là, il va rencontrer un Indien qui est une présence mystérieuse, qui est même temps un initiateur et voilà, un taiseux.
C'est une figure presque mythique, je trouve.
Tout à fait.
Et accompagné d'un alligator.
D'un caïman.
Un alligator.
Oui, c'est très compliqué, il y a des crocodiles. Là, dans cette région, ce sont des caïmans.
Et ça nous renvoie aussi à ce dont vous parliez quand vous évoquiez ce qu'il y avait avant l'homme, les terres avant l'homme. Ça nous renvoie à ce qu'il y avait avant les hommes, les occupants, ou du moins les Espagnols et tous ces étrangers qui arrivent, ce qu'il y avait de nature, parce que l'Indien, visiblement, est resté proche de la nature.
Oui. Alors l'Indien, qui est passé par les missions, des jésuites, malgré tout, a gardé, et d'ailleurs tous les témoignages le disent, les Indiens, même aujourd'hui, ont gardé malgré tout leur identité, toute une manière d'être qui est profondément inscrite en dépit des changements et des bouleversements que ces peuples ont pu connaître. Alors cet Indien, effectivement, c'est moins un personnage réel qu'une espèce d'archétype. C'est la personnification de cet univers d'avant, cet univers très primitif,
de
très primordial.
De ceux qu'on a volés.
De ceux qu'on a volés. Et puis, c'est aussi cette nature, une autre nature qui est révélée, qui va être révélée à Louis Capel et au lecteur surtout. Oui. La force de cette nature, cette puissance, mais pas dans un sens un petit peu angélique, comme on a tendance à voir aujourd'hui.
Elle,
la nature...
Elle sait être violente.
C'est une nature violente, c'est une nature qui donne la vie, mais qui donne aussi la mort. L'endroit où Louis Capel va s'établir, c'est sur le fleuve Paraná. Donc, c'est un endroit qui est à la fois fertile, mais qui est à la fois bourbeux. C'est l'endroit des décompositions et de la vie qui repart aussi. Donc, ce personnage-là est à la charnière, et son caïman, évidemment, c'est cette cruauté, cette menace perpétuelle.
Hein. Voisinage avec la nature encore.
Et ce voisinage avec la nature,
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé justement de cette modernisation qui s'introduit dans l'économie, des techniques modernes, de l'intégration aussi du pays, de l'Argentine, dans l'économie mondiale, puisqu'on le voit bien, un des multiples travaux que va faire Louis Capel, ça va être dans une sorte de, comment dirais-je, de lieu où l'on abat tout. Et que l'on exporte ensuite par bateau entier vers l'Europe.
Ce qui a fait la richesse de l'Argentine, ça a été la technique de la congélation. Donc les carcasses sont expédiées vers l'Europe et vraiment ça a été très, très novateur. Et en même temps, c'est quelque chose d'assez apocalyptique.
Ces fleuves de sang qui coulent.
J'ai eu accès à des images et documents d'époque, hein, ces espèces d'élevages et d'abattoirs géants, c'est Moloch, c'est absolument terrifiant en même temps. Voilà.
Voilà, alors il y a également, et on va le voir aussi dans votre ouvrage, les exploitations minières, et Dieu sait comme c'est dur aussi, parce que, et il y a également les ressources de grandes exploitations, des firmes, des usines, il y a des ressources également agricoles qui comptent également, puisque ces terres maintenant, ce sont les leurs. Alors, il y a également, alors ça, on le voit tout au long de votre ouvrage, suivant les tâches que va accomplir Louis Capel, et puis l'arrivée massive de ces immigrants européens que l'on rencontre dans le train. On devine que c'est le prolétariat bon marché, qui est très mal payé de toute façon, qui ne peut rien faire, qui est coupé des racines, et puis cette solitude entre hommes, il n'y a pas de femmes, et on verra que parfois, ben, ils essaient de compenser cette absence de femmes. Et c'est vrai que l'on découvre à travers votre roman, petit à petit, toute cette Argentine qui se met en place, qui remplace un pays vierge, absolument livré à la nature, qui est hostile toutefois, d'un pays qui va exploiter cette nature. Et les hommes.
Oui, et on... Louis Capel, comme beaucoup des migrants, est parti avec dans l'idée que ça allait être un monde nouveau. Or, que se passe-t-il? C'est aussi une désillusion, puisque c'est l'Europe qui est en train de se réinstaller, ou de s'installer plus exactement, en Argentine, et de finalement, d'ailleurs, Angelo, au début, dit à Louis Capel sur le bateau, tu sais, là-bas, c'est comme en Europe. C'est la même chose. Alors, il y a cette âpreté, il y a à l'époque, c'était vraiment les grosses sociétés anglaises, on dirait aujourd'hui les multinationales qui ont déjà le pied sur le continent. Voilà, donc l'impression de monde nouveau, avec le chemin de fer, l'essor du chemin de fer, des technologies nouvelles, bientôt l'aviation.
Et son pénitencier.
Et son pénitencier, voilà, tout au bout. Donc, ce qui me tenait à cœur à travers ce destin singulier, c'était aussi de montrer le destin de tout un continent et le destin, ou plutôt les choix qui sont faits par l'Europe à travers, et par le monde finalement, à travers un continent relativement neuf. Voilà.
Alors, évidemment, quand on voit ces pérégrinations, on se dit il est comme le juif errant, il erre, il essaie de trouver quelque chose, il ne désarme pas finalement, apparemment il ne désespère pas.
Non, il ne désespère pas, tant qu'il a ce but, tant qu'il a ce défi qu'il s'est donné, c'est-à-dire rembourser cette dette, il ne désespère pas. Et puis tout à coup, lorsque cette dette, lorsqu'il est arrivé au bout du chemin, enfin au
quand
bout
il
de,
a remboursé,
de voilà, oui. lorsqu'il est arrivé à remplir sa mission, hein, si on peut dire.
Oui, là, parce que pour cet homme intègre, voilà, honnête, c'était un déshonneur, dans le fond.
C'était un déshonneur. Voilà, il doit de l'argent. On apprend comment et pourquoi dans le roman. Donc, lorsqu'il arrive au bout de cette mission, lorsque le dernier centime est remboursé, eh ben, il ressent un grand vide. C'est qu'as-tu fait de ta vie finalement? Il se retrouve seul,
dans une
solitude terrible, ouais. Et plus question de rentrer. En a-t-il vraiment envie?
Alors qu'il voulait donner un sens à son existence.
Oui, oui, en même temps, inconsciemment, mais il n'y parvient toujours pas.
Et là-dessus, il y a le climat que vous décrivez par touche, ce climat glacial, le vent, la neige, les intempéries, il faut travailler là-dedans également. Et lui, qui n'était pas au départ un ouvrier agricole, il va falloir qu'il a acheté un terrain, donc vous en avez parlé, un terrain mal posé là aussi,
marécageux,
mal choisi, et tout ça sous les intempéries multiples. Et puis là-dedans, donc je pense à la narratrice, il y a des tas de choses, même des lettres qui ne sont pas envoyées. Alors on se dit, est-ce que c'est par pudeur, par orgueil, à quoi bon?
Alors c'est un personnage effectivement qui, je crois, qui renonce. Et il est, Il va passer le pas, et puis, à quoi bon ? Voilà, c'est un personnage, encore une fois, qui porte en lui une espèce, vous savez, le fatum antique, hein, qui a donné le terme fado. Il porte en lui, je pense, une espèce de... Il est un peu battu d'avance. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais voilà, et chaque fois qu'il essaie, qu'il se redresse un petit peu, ben... Finalement, les autres ne sont pas au rendez-vous.
Oui, et voilà, le sort s'acharne sur
lui. Voilà, d'où ses amours malheureuses, les difficultés de relation avec sa famille, oui. Lorsqu'il veut faire venir son neveu.
Il est maladroit,
voilà.
Hein, parfois.
Il est maladroit. Voilà, il est maladroit comme tous les taiseux qui brusquement tuent une audace.
Exactement. Voilà. Alors, vous comprenez pourquoi, hors antenne, je vous ai parlé de Job ? Parce que finalement. D'autres malédictions arrivent. Son terrain va être inondé, donc vraiment, il ne peut plus. Alors qu'il lui avait rapporté un peu d'argent, qui lui avait permis de rembourser ses dettes. Et puis son cousin Alberto, qui a été un soutien, au moins moral pour lui, un soutien et un relais par rapport à la famille en resté en Europe, lui meurt donc, et il se retrouve vraiment seul. Voilà. C'est vrai que tout à l'heure, je vous disais, oui, j'ai trouvé ces lettres. Il est fâché avec son frère. Vincent, on sait pourquoi, il ne nourra de toute façon pas de lien étroit. Mais son frère Lucien, qui est ombrageux, est très, très fâché parce que il propose à son neveu de venir le rejoindre. Bon, c'est assez étonnant, mais peut-être pour combler aussi sa solitude.
Oui. Pour donner. Louis Capel a sûrement une frustration de filiation. Il aurait sûrement aimé avoir un fils. À l'époque, on pense surtout à un fils pour continuer la lignée. Ben, ça, il n'a pas. Les circonstances ont fait qu'il n'a pas pu. C'est ce manque qu'il va essayer de combler, et maladroitement, chaque fois.
Oui.
Voilà.
Il subit des chagrins au départ. Il y a une grande peine, un grand chagrin, des malheurs. Mais je crois que je ne pense pas dévoiler quelque chose de très important. C'est important, c'est plutôt toute sa destinée, finalement. Mais sa mort est assez étonnante. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant aussi. Le jour finit par poindre. Une vapeur venue du fleuve monte à l'assaut des peupliers. Elle enveloppe les troncs, glisse le long des branches, effleure les rameaux. Lui perçoit confusément le tintement léger de leurs feuilles comme autant de piécettes de laiton. La douleur se réveille, elle est insupportable, pareille à la morsure d'une bête enragée. La voilà qui plante ses crocs, relâche un bref instant sa prise pour revenir le harceler aussitôt. Il suffoque, s'arc-boute avant de basculer. Tandis qu'il lâche prise, une certitude l'éblouit. Tout ça va ensemble. Le sang, la danse, le fleuve, les couteaux et les coléoptères, le caïman et la fleur d'irupée. L'un délie ce que l'autre noue, et les flots bourbeux vont grossir l'océan. Un rire étire sa bouche, aplanit le phlegmon qui gonfle sa joue. Un rayon de soleil touche ses lèvres. Il pleure maintenant, mais c'est d'une joie nouvelle. Ça lui est venu d'un coup, cette compréhension soudaine. Il murmure, tout est bien.
Ah. C'est peut-être là la victoire de Louis Capel, justement. Peut-être qu'il a fallu, il a dû aller jusque... subir toutes ces épreuves, traverser la Patagonie, traverser les crues du fleuve, pour finalement mourir apaisé, pour avoir cette révélation, puisqu'il s'agit d'une révélation, hein, à mon sens. Voilà, ce personnage qui pourrait être perçu comme quelqu'un de battu, d'avance, eh bien, il est porteur d'autres choses.
Absolument.
Il est porteur d'une lumière qu'on n'avait pas soupçonnée
que lui n'avait
au départ,
pas soupçonné
et
non
que
plus.
Lui n'avait pas soupçonné, et qui permet de révéler donc au lecteur une certaine vision du monde, du cosmos.
Nous ne nous quittons pas tout de suite. Nous allons écouter un choix de votre part, Jim Morrison chantant The End, justement.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. Older children are.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, avec Michel Tesser, nous avons parlé de cet ouvrage très beau, très bien écrit, Patagonie, très émouvant aussi à bien, sur bien des points. Michel Tesser, la narratrice finalement, comment termine-t-elle cet ouvrage ?
Alors la narratrice termine son ouvrage avec, justement, dans la tête et dans le cœur, les derniers instants de Louis Capel, puisque après la mort de Louis Capel, enfin ce qu'elle a saisi de sa mort et de ce qui s'est passé après, ben, elle a continué son enquête malgré tout, et elle va retrouver d'autres... elle va retrouver la... sinon la famille, du moins un témoin très très âgé de cette, des derniers survivants de la famille, dont d'une certaine manière le cercle est bouclé, puisqu'elle s'aperçoit qu'elle appartenait elle-même à cette famille, donc que son destin est d'une certaine manière lié, et elle va se retrouver toujours dans cette chambre d'où tout est parti, avec ses tableaux, ces fameux tableaux qui ont guidé sa quête, hein, d'une certaine manière. Et
n'est-elle pas heureuse d'avoir justement réhabilité ou révélé cet homme ?
Absolument. Voilà. Moi, j'ai trouvé, lorsque ces lettres donc, ont surgi hein, du néant, de l'ombre du moins, eh bien, ce qui était... Le ton de ces lettres était tellement... tellement bouleversant, et ce personnage n'avait laissé aucune trace, si bien que il y avait quelque part une nécessité de lui rendre justice, de rendre justice à tous ces humbles, finalement, qui avaient fait partie, on parle toujours de la grande histoire, moi je parle de la petite histoire, à travers la grande histoire, puisqu'on parle toujours des gens qui ont laissé leur nom sur des monuments, des dans chefs, des livres, des généraux, sur leur socle, comme à Buenos Aires, mais on ne parle pas de tous ces humbles qui, finalement, courageusement, ont poursuivi leur destin, qui, s'ils n'étaient pas éclatants et s'ils n'avaient pas, l'aura et la destinée qu'ont eu les autres, portaient et continuent de porter un enseignement.
Et ils font partie de l'humanité.
Ils font partie de l'humanité.
Un grand merci, Michel Tesser. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit du roman Patagonie, donc écrit par Michel Tesser et édité par Serge Safran. Au revoir.
Au revoir, merci.